Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromit z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. À 3 semaines des élections européennes, je vous propose de réécouter ou de découvrir un entretien que nous avons réalisé il y a quelques mois avec un témoin exceptionnel, méconnu du grand public, qui a été aux premières loges de la naissance du projet européen. Il s'appelle Georges Berthoin et je suis sûr que son nom ne vous dit rien. Au début des années 1950, il a été le directeur de cabinet de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, comme on a l'habitude de présenter Jean Monnet. Une rencontre qui a changé sa vie. Homme de l'ombre de la construction européenne, Georges Berthoin a toujours voulu rester anonyme pour rester libre. Georges Berthoin a aujourd'hui 93 ans, mais il parle avec l'enthousiasme d'un jeune homme du projet de toute une vie. Européen convaincu et convaincant, Georges Berthoin nous livre son histoire de l'Europe, même s'il a surtout tenu à nous parler d'avenir. Chez lui, à Paris, où il nous a gentiment reçus, nous avons commencé par remonter le temps. Georges Berthoin a eu 20 ans en 1945 et j'ai voulu savoir si le spectacle d'une Europe en ruine avait été le point de départ de son engagement européen.
Non, il date d'avant la guerre. J'étais tout jeune, mais mon père militait avant la guerre de 14 pour les États-Unis d'Europe. Donc c'est une tradition familiale, si vous voulez. Mais évidemment, la première volonté que j'ai eue, c'était quand j'étais dans le Vercors, en lisant dans les réunions, Le silence de la mer de Vercors. C'est là où il y a cette tentative de dialogue entre la France et l'Allemagne, et ce dialogue est évidemment impossible à cette époque-là. Puis alors j'étais dans un mouvement de résistance dont je ne connaissais pas le nom officiel à l'époque, mais qui était Combat, qui était très européen et qui était dirigé par Freinet, qui était après la guerre, en 1945 précisément, très fédéraliste.
Alors paradoxalement, il y a eu des résistants qui étaient très européens pendant la guerre, un moment où l'Europe s'effondrait, voire était déjà totalement effondrée.
Oui, mais c'est au moment que les choses s'effondrent qu'on a envie de les reconstruire. Donc en mai 45, ça c'était mon anniversaire, la guerre n'était pas encore terminée. Mais nous ne savions pas, mais nous avions peut-être une sorte d'intuition générale, Jean Monnet était dans le gouvernement provisoire à Alger et avait donné au général de Gaulle tout un mémoire pour organiser une unité européenne après la guerre. Donc c'était le moyen de ne pas retomber dans des, si je puis dire, les fatalités de l'histoire. Et voilà, alors moi, à la base, j'étais de ceux qui partageaient cette idée.
Et bien évidemment, construire l'Europe, ça passe d'abord par une réconciliation franco-allemande.
Absolument. Ce qui, évidemment, en 45, même en 46, c'était une ambition impossible à réaliser. Celui qui nous a permis de donner une légitimité historique, ça c'est Churchill, en 1946, quand il a fait un grand discours. Il n'était pas Premier ministre, il ne l'était plus, mais un grand discours à Zurich en disant il faut créer une sorte d'États-Unis d'Europe, et le premier pas, c'est la réconciliation, une amitié entre la France et l'Allemagne.
C'est une anecdote, mais il s'est empressé d'ajouter, mais c'est pas l'histoire de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni ne doit pas en faire partie.
Oui, mais il disait que l'Empire britannique bénirait cette opération.
On va revenir évidemment.
On va revenir parce qu'il y a un peu d'actualité. Oui, d'accord.
Les aventures européennes du Royaume-Uni. Alors, en tout cas,
c'était important à l'époque parce que la politique traditionnelle de la Grande-Bretagne a été de diviser l'Europe pour qu'elle ne soit pas trop forte. On verra ce qui va se passer maintenant. Mais le fait que Churchill, qui était le grand leader européen de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale sur l'Allemagne nazie, le fait qu'il le dise a montré que la Grande-Bretagne était prête à changer les fondamentaux de sa politique étrangère.
Pour les jeunes, quand vous étiez jeune, quand vous aviez 20 ans, 45, votre génération, la construction européenne, elle débute remarquablement rapidement entre les Français et les Allemands, avec le traité CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. On est au tout début des années 50.
C'est le 9 mai 1950 que tout ce processus commence. Et le fait que Robert Schuman, Lorrain, né allemand, français de cœur toujours, et ministre des Affaires étrangères française, et compris l'importance régionale, ce qu'on oublie, national et historique propose cette action commune à changer complètement les données de l'histoire et des réactions psychologiques des uns et des autres, et notamment des Allemands. Il ne faut pas oublier que le fait que le ministre des Affaires étrangères français, au nom du gouvernement français, donc de la France, propose à l'Allemagne un premier pas vers une unité, avec égalité, sans discrimination contre elle, c'était l'esprit de Versailles qui est responsable, qui s'en allait, et partiellement responsable de la venue d'Hitler au pouvoir. Faut pas oublier ceci. Le fait que le traité de Versailles était éliminé et les Allemands, même jusqu'à la génération actuelle, mais ça peut s'estomper, avaient une reconnaissance profonde, ce geste, envers la France pour ce geste-là.
Alors, mettre en commun le charbon et l'acier quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Europe est encore en ruine, quel symbole ?
C'était plus qu'un symbole. C'est que Adenauer, qui était un chancelier assez extraordinaire, voulait petit à petit restaurer la souveraineté allemande, et notamment sur le charbon et sur l'acier. Les Américains et les Anglais n'étaient pas hostiles à cette évolution. Les Français la craignaient, puisque le charbon et l'acier, à l'époque, étaient encore considérés comme les deux industries de base pour les industries de guerre. Donc, y avait un intérêt français, si vous voulez, à éviter ça et répondre aux angoisses françaises potentielles. Donc, on a européanisé le problème. Et les Allemands et nous-mêmes y avons trouvé notre choix. Les Anglais, à l'époque, on a proposé aux Anglais d'en faire partie, ils n'ont pas accepté.
Déjà. Alors, cet idéal européen, il a été porté par de grands Européens, vous en avez déjà cité quelques-uns, Robert Schuman, Konrad Adenauer, on peut parler aussi de
Gasperi,
Spinelli, Robert Spack, et évidemment Jean Monnet, dont vous avez été le directeur de cabinet. Cette rencontre entre Jean Monnet et vous, elle se passe comment? C'est une séduction réciproque?
Quand il y a eu la déclaration Schuman, je suis allé voir Monnet en disant « Je crois à cette affaire. » C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait une démarche, je dois dire. Et il m'a pris. Ça a bouleversé ma vie et ça lui a donné une signification en fonction de l'héritage moral de mon père et de mon expérience de la guerre.
À partir des années 50, et on va dire à peu près jusqu'à la fin des années 90, c'est la grande époque de l'Europe. L'enthousiasme européen est partagé par tous les citoyens.
Oui, mais pas par tous les gouvernements. Notamment le gouvernement français était très divisé à ce sujet. La grande crise européenne, la première grande crise européenne a eu lieu en 54, lorsque la France avait proposé une armée européenne, la communauté européenne de défense, aux six pays, à l'époque nous étions six, tous les pays ont ratifié les traités, et la France n'a pas voulu en discuter. C'était sous le gouvernement de Pierre Mendès-France. Donc il y avait à la fois une communauté européenne de défense, une armée européenne, et une communauté politique. Tout ça a sauté. Et il y a eu une relance qui était purement économique en 55, et cette relance a évité de parler de problèmes militaires, de problèmes politiques, et c'est sur cette base non militaire, non politique, qu'on a fait, on a créé la communauté économique européenne. Et en même temps, parce qu'il y avait eu la nationalisation du canal de Suez par Nasser, et pour donner une certaine indépendance énergétique à la France, on a créé, en parallèle avec la communauté économique européenne, Euratom, une communauté européenne de nucléaire.
Alors, en tout cas, il y avait un fondement politique, il y avait l'idée d'une Europe culturelle, et finalement, c'est l'économie qui a pris le dessus, et vous venez d'expliquer pourquoi, notamment par le refus des Français d'avoir une plus grande intégration politique et d'avoir une Europe de la défense. Est-ce que le premier malentendu de l'Europe et des Européens, il n'est pas là, ce malentendu? C'est-à-dire qu'on a construit l'économie avant de construire le politique?
Non, on ne pouvait plus parler des politiques, puisqu'il y avait eu un échec fondamental de la communauté politique européenne et de la communauté européenne de défense. Donc pour relancer l'Europe, on a évité ces deux sujets qui avait été l'objet de batailles, notamment en France, considérables. Les autres pays, les autres cinq étaient prêts à aller de l'avant sur le plan politique. La France ne l'était pas parce qu'il y avait une ambiguïté et qu'il y avait une influence très forte du mouvement gaulliste et du mouvement communiste. Et cela représentait une masse énorme du point de vue de l'opinion et des majorités parlementaires.
Le mouvement très souverainiste, s'il en est.
Oui, évidemment, pour des raisons totalement différentes.
Bien sûr, mais est-ce que là, le petit décalage, ce qui fait qu'aujourd'hui on connaît les difficultés, l'Europe connaît les difficultés, notamment de compréhension par les Européens, est-ce que, je reviens un peu à ma question, est-ce que là on n'a pas raté quelque chose en construisant d'abord l'économie et pas le politique ? Si c'était à refaire, est-ce qu'il ne faudrait pas recommencer, non pas par la culture comme n'a pas dit Jean Monnet, mais par la politique ?
Oui, mais on a commencé d'abord par un secteur spécial pour voir si on pouvait travailler ensemble. On y a réussi, c'est la CECA. On a tout de suite, dans cet élan, on est allé vers le militaire et vers le politique. Il y a eu un traité qui a été une communauté politique préparée par ce qu'était à l'époque le Parlement européen. Donc on a commencé par ça. Il y a eu un échec énorme. Donc on a pris suivi un détour uniquement par l'économique, en pensant que assez rapidement on ressentirait la nécessité de revenir aux politiques. Bon, on ne l'a pas fait, voilà. Mais si vous voulez, ça n'a pas été une erreur de départ. Vous savez, quelquefois quand on a un gros échec, on contourne l'obstacle et puis on essaye de reprendre le chemin.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Alors, l'économie a plutôt bien fonctionné avec le grand marché,
oui,
avec la libre circulation des citoyens qui étaient des travailleurs notamment, avec...
Ça s'est venu beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, mais en tout cas dans les 30 ans qui ont suivi, ça a plutôt bien fonctionné.
Ça
on est arrivé à une liberté de circulation totale des biens, des services,
oui,
et des citoyens, c'est-à-dire des travailleurs. Et puis vient Maastricht. Et Maastricht, c'est le début déjà, en tout cas pour les citoyens, pour certains d'entre eux, d'une petite hésitation. On se souvient du référendum de Maastricht en France. Il est passé
de justesse.
Et puis, il a été rejeté par les Danois qui ont dû revoter. C'est un déclic pour vous, Maastricht ?
Vous avez totalement raison. C'est plus qu'un déclic, c'est un tournant. Parce que c'est à Maastricht qu'on a abandonné le mot de communauté européenne et qu'on a transformé ça en Union européenne.
Alors on est en 1992, je le rappelle.
En 1992, c'est ça. Bon, mais ça, c'est un tournant. Et la raison de la crise actuelle de l'Europe, c'est qu'en 1992, on a abandonné l'idéal et la méthode communautaire pour revenir petit à petit à une méthode intergouvernementale qu'on appelle l'Union européenne.
Ça, faut développer un petit peu. Alors, le communautaire et l'intergouvernemental, oui, parce que tout le monde ne sait pas, hein, tout le monde ne vous suit pas.
Oui, tout le monde ne sait pas, mais sauf que...
La différence entre...
Il y a eu des passeports qui étaient émis à l'époque, des passeports communs, où il y avait communauté européenne, puis République française. Et après, le passeport qu'on a issu, on a créé à l'époque, c'est devenu Union européenne, en dessous République française. Donc ce changement de mot n'était pas innocent. Alors le principe de communauté européenne, et ça c'est ce qu'on a oublié, que les gouvernements n'ont pas oublié, les gouvernements ont vu cette affaire européenne se développer d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. C'était un succès. Alors ils se disent, attention, il faut reprendre après le contrôle des choses. D'où cet ajout, si vous voulez, de l'élément intergouvernemental avec des négociations diplomatiques classiques qui sont l'Union européenne. Dans la communauté européenne, le principe de base, c'est que nous traiterions seulement les problèmes que nous pensons être des problèmes communs. Et la Commission avait pour but et mission de déterminer ces éléments communs et de faire des propositions au gouvernement, qui dans les conseils des ministres, tout ça sur les détails institutionnels, prenait la décision. Autrement dit, la Commission propose, les gouvernements disposent. Quand on a créé l'Union européenne avec cette ambiguïté que vous notiez tout à l'heure, quand on a créé cette ambiguïté-là, à ce moment-là, les gouvernements sont entrés dans le système européen à leur façon. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je prends un exemple. Madame Merkel, chancelier allemand, va négocier avec le président de la Turquie pour la question des réfugiés. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait au nom des institutions européennes. Elle l'a fait et tout le monde a ratifié ce qu'elle avait décidé. Bon, nous sommes allés au Mali. Il n'y a pas eu de discussion préalable. On a eu raison d'y aller. Mais il n'y a pas, on n'est pas allé au nom de l'Europe. On le dit. Évidemment, ça protège l'Europe. Mais il n'y a pas eu de mandat. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de financement commun. Donc, si vous voulez, petit à petit, sans s'en rendre compte, les gouvernements, en voulant ou prétendant agir au nom de l'Europe, ont défait cette communauté européenne. Nous avons une union. Et en général, dans une communauté, on gère ce qu'on a en commun. Dans une union, on gère ce qu'on n'a pas en commun. Voilà la différence.
Alors, ce qui veut dire que si on fait un peu le point sur les difficultés de l'Europe aujourd'hui, la crise financière, la crise économique, la crise des réfugiés, et on parlera tout à l'heure de la crise de confiance, évidemment, les solutions sont européennes et elles ne peuvent pas être nationales.
Oui, mais c'est un défi commun qu'on traite de manière internationale, de manière diplomatique et finalement de manière chacun fait quelque chose de différent. Je vous donne un exemple. On dit on doit ramener les gens aux frontières. Bon, ils vont aux frontières et après, ils reviennent. Même si vous avez les frontières. Moi, je suis d'une génération qui sait très bien qu'à l'époque de l'occupation allemande, la frontière sur les Pyrénées était gardé avec des moyens qu'on ne mettra jamais, avec l'armée allemande qui était tout de long. Bon, les gens allaient en Espagne, il y a eu tous les passeurs, il y a des gens qui allaient en Suisse, il y a même des gens qui pouvaient aller à Londres par des parachutages, revenir, etc. Donc les frontières, c'est toujours celui qui est désespéré, il passe tous les obstacles.
Après le doute, le premier petit doute, l'interrogation autour de Maastricht, est venu le traité constitutionnel en 2005. Et là, c'est un petit peu un révélateur que l'Europe est en décalage par rapport aux citoyens. Avec, on peut rappeler, le refus des Français et puis aussi des Néerlandais. C'est à ce moment-là, en 2005, qu'on se rend compte qu'il y a un grand décalage entre l'Europe qui se construit à Bruxelles, à Strasbourg, avec les élites, comme on dit, et puis les citoyens qui sont un petit peu perdus dans cette Europe qui a grandi, dans cette Europe qui est devenue peut-être un peu plus technocratique, plus pointilleuse, et qui s'éloigne des citoyens.
Oui, c'est exact. Mais il faut comprendre le danger des référendums. C'est que les gens votent, quelquefois, pas pour répondre à la question, parce qu'ils veulent voter contre celui qui pose la question.
Ils répondent rarement à la question.
Oui, mais vous voyez, il faut faire très attention, parce que c'est une évolution. C'est que quand vous avez un Parlement élu, vous avez des députés ou des sénateurs qui connaissent leur région, et les gens de la région les connaissent. Ils parlent. Et ensuite, ils se spécialisent en commission, etc. Et ils peuvent traiter de problèmes très complexes. Et les problèmes actuels du monde et chaque pays deviennent de plus en plus complexes. Ils peuvent les traiter et prendre des positions idéologiques et techniques. Dans un référendum, dans le cas du référendum de 2005, il y a des gens qui ont voté non parce qu'ils voulaient voter contre M. Chirac. Et il y a des gens qui ont voté oui de justesse à Maastricht parce qu'ils ne voulaient pas abandonner le président Mitterrand. Si vous voulez, mais ça n'avait pas un rapport, il y a certains qui répondent à la question. Mais, et en plus, il faut une information considérable pour répondre. Prenez le cas du référendum britannique. Les gens qui ont voté pour le Brexit, il y en a au moins un tiers qui n'avaient aucune idée des conséquences de leur vote. Moi, je sais, j'ai beaucoup d'amis britanniques, puisque j'étais longtemps en Grande-Bretagne pour représenter l'Union européenne, précisément, qui ont voté non parce qu'ils voulaient se débarrasser de M. Cameron. Donc, il faut faire attention, il y a toujours ce côté oblique, vous savez, le côté c'est le billard. Bon, alors, voilà, donc, décider de problèmes aussi importants de ce genre, il faut faire très attention dans l'usage du référendum.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète, avant de retrouver notre grand témoin, Georges Berthoin, l'ancien directeur de cabinet de Jean Monnet. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Georges Berthouin, âgé aujourd'hui de 93 ans, que nous avions rencontré il y a quelques temps. Dès le début des années 50, il a été le directeur de cabinet de Jean Monnet, autant dire un témoin privilégié de la construction européenne. L'Europe, pour Georges Berthouin, c'est le projet de toute une vie. Et voir cette Europe en difficulté l'attriste, bien sûr. Il en faudrait toutefois davantage pour entamer sa confiance dans les Européens. Alors au fil de notre conversation sur cette Europe qui a suscité tant d'espoir et qui est aujourd'hui en panne avec Georges Berthouin, nous avons évoqué le grand élargissement du début des années 2000 qui a fait passer l'Union Européenne de 15 à 28 pays. Un élargissement très rapide qui génère aujourd'hui une certaine incompréhension entre les Européens. Ce grand élargissement est-il un responsable parmi d'autres de ce mal européen ? Georges Berthouin.
C'est une des conséquences. Alors, la stratégie britannique a été de faire pression pour élargir le plus possible et le plus rapidement. Parce que les Britanniques considéraient que plus on élargissait et plus rapide ce processus, moins il y avait de chances de créer une Europe politique. Donc il y a eu cette ambiguïté, et cette ambiguïté a eu les résultats que les Britanniques escomptaient. Cela a affaibli l'Europe, et ça a affaibli incontestablement l'image européenne. Mais, vis-à-vis de l'Europe de l'Est, nous avions un devoir moral. Il ne faut pas oublier que quand il y a eu des révoltes dans l'Allemagne de l'Est, le régime communiste, en Hongrie, à Budapest, à Prague, ceux qui se révoltaient criaient « Vive l'Europe ». Si vous voulez, l'Europe, pour eux, était ce que l'Amérique a été pour les immigrants du 19e siècle, si vous voulez. C'était le European Dream. Et ce dream a surtout donné des résultats, et c'était particulièrement visible en Allemagne de l'Est, parce que l'Allemagne de l'Est pouvait voir la télévision de l'Allemagne de l'Ouest. Donc ils voyaient ce qui se passait de l'autre côté du mur. Donc il y avait cette aspiration. Mais on a mal traité la chose sur le plan technique. Il y avait des formules bien meilleures que celles qui ont été suivies. J'en ai proposé à l'époque à ceux qui avaient des responsabilités. On a intégré ces pays sans leur donner la possibilité d'évoluer lentement pour être capable d'être des partenaires qui ne déstabiliseraient pas l'Europe de l'Ouest telle qu'elle était constituée.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que politiquement, il fallait ouvrir la porte à tous les pays d'Europe centrale et orientale. Il fallait leur ouvrir la porte de l'Union européenne, mais que techniquement,
il fallait le faire.
Il fallait donner du temps au temps.
Absolument. Et on ne l'a pas fait.
Alors en tout cas, aujourd'hui, les fractures se multiplient en Europe. Absolument. Il y avait traditionnellement une fracture un peu nord-sud. Le nord plus rigoureux, plus gestionnaire, plus prospère aussi. Le sud un peu plus dépensier, un peu moins rigoureux sur les questions budgétaires. Et puis maintenant, cette fracture entre l'Est et l'Ouest, sur non pas des problèmes budgétaires, mais sur peut-être quelque chose qui me paraît plus grave, c'est-à-dire une fracture sur les valeurs. Lorsque Monsieur Orban, le Hongrois, dit « les réfugiés, c'est pas mon problème, c'est éventuellement le problème des Allemands, mais c'est pas le problème hongrois, c'est même pas un problème européen », ça pose une question sur, finalement, qu'est-ce que les Européens ont au commun après ce formidable élargissement?
Je crois qu'à la base de tout cela, il y a une réaction religieuse. La Pologne est un pays de très forte tradition catholique, la Hongrie aussi, et ce qu'on oublie...
C'est majoritairement athée, c'est le pays le plus athée de l'Union européenne.
Je vais vous dire, mais ils ont une culture luthérienne. Or, si vous prenez un pays comme la France, il y a une culture laïque plus accentuée, mais l'accueil des migrants était beaucoup plus compliqué puisque la plupart des migrants viennent de régions musulmanes. Donc, ça explique cette différence. On aurait pu le traiter mieux à l'échelle européenne, mais la Commission, à mon avis, a été faible dans ses propositions. Elle a été faible en partie parce qu'elle se sentait limitée par les gouvernements qui étaient n'étaient pas d'accord sur les fondamentaux de ce problème. Et ça explique les différences entre gouvernements qui ont pratiquement empêché d'avoir une stratégie d'intégration des migrants à l'échelle européenne.
Mais ça pose quand même la question, comment on construit un projet commun lorsqu'au nord et au sud, on n'est pas d'accord sur ce que ça va être un budget, et entre l'est et l'ouest, on n'est pas forcément d'accord sur ce que finalement les valeurs que l'on partage. Ça pose quand même une question sur le devenir d'une union qui s'est élargie et sur le fait que les valeurs sont moins communes qu'on ne l'imaginait.
C'est exact. Et on peut tirer de ce que vous dites la conclusion que si une relance européenne qui est nécessaire intervient, elle ne sera peut-être pas possible à l'échelle de 28.
Voilà. Le Royaume-Uni est un pays que vous connaissez très très bien, vous y avez vécu de nombreuses années, vous l'avez mentionné, vous avez été le représentant de la communauté européenne, puis de l'Union européenne à Londres, et puis les Britanniques, dont vous avez expliqué que dès le départ, l'Europe, ils étaient pour, mais pas forcément avec eux, ont fini par rejoindre l'Union européenne et sont en train de la quitter. Alors, le Brexit, c'est une catastrophe pour les Britanniques, c'est une catastrophe pour l'Union européenne, ou pour les deux, et à moindre de niveau.
Pour les deux.
Pourquoi ?
J'ai lu le discours de Madame May. Son discours détermine assez clairement les buts de la négociation dans l'intérêt britannique, mais d'une manière sous-jacente, elle menace de faire des chantages. Et quand je vois, parce que j'ai bien connu personnellement ou professionnellement la plupart des premiers ministres depuis l'époque d'Anthony Eden, au moment de la crise de Suez, aucun de ces premiers ministres n'a parlé des affaires européennes ou avec l'Europe avec des chantages implicites.
Le chantage de Madame May, c'est de dire, écoutez, si en gros vous ne laissez pas une porte entrouverte du marché intérieur, alors à déterminer, eh bien nous on va en gros faire du Royaume-Uni un paradis fiscal et avec un moins-disant social. Bon, en gros, un pays low cost.
C'est ça, très bien. Bon, mais ça, si je puis dire, c'est une menace. Mais il y a des menaces sur les personnes. Les Européens qui vivent en Grande-Bretagne, nous les traiterons bien si vous traitez bien les Britanniques qui sont sur le continent européen.
Vous allez prendre le risque de les prendre en otage.
Oui, mais tout ça. Mais à un moment donné, elle dit, les raisons pour lesquelles nous avons voté en faveur du Brexit, et elle dit que c'est un vote qui a été clair, alors que c'est un vote qui a été obtenu par des mensonges, qui a été reconnu d'ailleurs par les leaders, notamment M. Farage.
Bon. Qui a démissionné le lendemain.
Oui, bien sûr, le lendemain. Et puis il a dit, je vous ai raconté une histoire sur les fonds qui reviendraient de Bruxelles et qu'on utiliserait pour la sécurité sociale. Bon, mais si vous voulez, elle dit, nous avons voté. Et l'expérience de notre retrait le Brexit devait être médité par les autres pays européens. Donc elle dit, notre exemple pourrait être suivi par d'autres. Mais bien sûr, nous voulons l'unité européenne. Mais ça va donner des idées, s'il les avait déjà, à d'autres sur le continent européen. Donc si on suit l'exemple britannique qu'elle nous propose dans ce discours d'hier, ça c'est au début. On ne l'a pas cité dans les commentaires de presse. Si elle propose ça en disant « méditez notre exemple », et si on suit son exemple, on détruit l'Europe.
Et le risque pour l'Union européenne, c'est que d'autres prennent image de la politique et du choix britannique. C'est un peu ça le risque.
Mais elle propose, chacun devra méditer cette expérience du Brexit.
Alors elle est tout à fait en harmonie avec ce que dit un autre leader politique, un président, le président des États-Unis, Donald Trump, qui dit de toute façon, il y a pas, en gros, c'est pas son verbatim, mais il y a pas d'avenir de l'Union européenne qui va de toute façon s'effondrer, et que les Européens soient unis ou pas, c'est pas mon problème, c'est pas mon histoire, qu'ils se débrouillent. Évidemment, là encore une rupture.
Ça fait beaucoup de difficultés pour l'Europe. Mais c'est, à mon avis, une raison nouvelle. Quand nous avons commencé l'Europe, c'était pour établir une base solide à la paix entre les peuples européens. Bon, nous l'avons, pour l'instant, nous l'avons. Il y a maintenant une raison supplémentaire pour faire l'Europe. C'est que si nous voulons, face à l'Amérique, face à la Russie, face à la Chine, exister pour défendre nos intérêts, nos valeurs, notre système social, parce que la zone européenne, avec ses variations, est la zone, du point de vue social, la plus avancée du monde. Si nous voulons défendre tout ça, nous ne pouvons le faire que dans l'unité. Donc la raison de relancer l'Europe n'a, à mon avis, jamais été aussi forte et évidente au nom même de nos intérêts nationaux.
Mais est-ce que le problème majeur de l'Europe aujourd'hui, c'est peut-être que l'Europe doute d'elle-même, de son modèle? On peut le rappeler en quelques mots: vivre en paix, dans la tolérance, dans un univers d'état de droit, avec le respect des minorités, le tout dans une relative prospérité. Bon, l'Europe, c'est un peu tout ça. Vous avez envie de rajouter quelque chose ou j'ai dit l'essentiel?
Vous avez dit l'essentiel, mais je peux simplement ajouter, elle doute d'elle-même, tout ce que vous avez dit est exact. Est-ce que nous voulons continuer dans cette direction?
Alors, elle doute d'elle-même parce que très longtemps, elle a cru que son projet était universel et que par capillarité, eh bien, les Russes, évidemment, les Américains étaient quand même dans un système démocratique. Mais enfin, toute l'Europe d'abord, l'Europe des pays dictatoriaux au sud, puis les pays de l'Est, de l'Europe centrale et orientale, tous ces pays ont fini par adhérer aux idées de l'Europe. Et puis on avait l'impression que l'Ukraine, la Russie, et peut-être au-delà la Chine, et l'Afrique, et l'Amérique du Sud, et un peu partout, l'Europe, elle est moteur dans cette façon de concevoir le monde. Or, on constate que les Chinois n'ont pas pris un modèle européen, et sur le plan économique, au moins, ça fonctionne. Les Russes n'ont pas pris ce modèle. Alors, sur le plan économique, on peut pas dire que ça fonctionne, mais sur le plan de l'unité politique, de l'unité du pays, ça fonctionne. Donc, le modèle européen, finalement, il n'est pas repris par l'ensemble des habitants de la planète, et ça surprend un peu les Européens.
Là, j'aurais une nuance. Le modèle européen est suivi par tout le monde, mais le pouvoir européen sur le monde a disparu. Et ça manque au monde. Si vous prenez le cas de la Chine, j'ai eu beaucoup de contacts avec la Chine. Je suis allé très souvent, même au moment de la révolution culturelle. Le modèle européen, la puissance européenne, était considérée par les Chinois et de l'Union européenne comme un élément d'équilibre et un élément de civilisation. Les Chinois ont beaucoup de considérations, notamment pour la France, sur la sophistication de la civilisation européenne ou des civilisations européennes. Mais inconsciemment, les Européens, quelle que soit la génération, se rendent compte qu'à une époque, le sort du monde dépendait de Berlin, de Londres et de Paris. Et ils s'aperçoivent que le sort du monde et de leur vie quotidienne dépend de Washington, Moscou, Pékin. Donc, il y a un changement de statut exclusif de l'Europe qui est en cours et qui est visible, mais qui n'est pas ressenti d'une manière claire.
Mais les Européens, peut-être inconsciemment.
Alors, ça c'est le cliché, on est dans un monde multipolaire, c'est-à-dire l'Europe n'est plus, les trois villes européennes dont je vous parlais, notamment Londres et Paris et Bruxelles avec les empires coloniaux, c'est fini cette époque-là, il y a de l'influence et tout. Mais le grand défi à mon avis de la génération qui vient, s'il n'y a pas de catastrophe entre-temps, c'est d'organiser la mondialisation. Prenez un exemple, vous avez un téléphone portable, c'est le produit de la mondialisation. Ça fonctionne par la mondialisation, ça ne peut pas fonctionner avec les divisions de frontières qu'il y avait autrefois. Bon, les éléments constitutifs viennent de métaux rares, ils sont surtout en Chine, il y a de l'or, il y a des montages qui sont faits aux Philippines, etc. Je dis, ouvrez un ordinateur, parce qu'il a ouvert un ordinateur, vous avez les provenances, ça vient du monde entier, et rarement d'Europe. Bon, donc, si vous voulez, nous dépendons dans notre vie quotidienne de la mondialisation. Une autre chose, la mondialisation, elle s'est développée dans une sorte d'anarchie comme la jungle, et le grand défi de ce siècle, ça va être d'organiser, de discipliner, comme dans un État qui est en train de se créer, cette mondialisation. On ne la supprimera pas. On veut se prendre réfugié, mais elle est présente partout. Bon, mais c'est pour ça que, d'ailleurs, je regrette le départ de la Grande-Bretagne, parce que la place financière de Londres est la première place financière de la cité de Londres du monde. C'est là que les grands marchés se font, c'est là que les Chinois vont emprunter, etc. Je dis, à ce moment-là, si vous voulez, si nous organisons ceci, et si l'Europe est puissante, elle aura une influence sur l'organisation du nouveau système mondial. Je vous donne un exemple. Madame Lagarde, elle rentre au FMI, elle est prolongée. Vous savez pourquoi elle était prolongée? C'était dit d'ailleurs publiquement. Parce que c'est la dernière fois qu'un Européen présidera ce Fonds monétaire international et le prochain sera chinois. Ça change totalement l'équilibre du monde et ça représentera mieux les nouveaux équilibres qui s'organisent. Donc, si vous voulez, prenez tous les problèmes qui se posent aux Européens dans leur vie quotidienne avec leur téléphone portable, comme à des niveaux financiers, etc. L'exigence de l'Europe réapparaîtra. J'espère qu'elle apparaîtra dans l'esprit de ceux qui prendront des grandes responsabilités politiques en Europe, notamment l'année 2017, toute cette année, y compris l'Allemagne. Ça s'imposera de telle sorte que ceux qui étaient assez faibles, assez mitigés sur la relance européenne, constateront qu'elle est devenue essentielle.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Alors à la question, est-ce que l'Europe, dans les difficultés qu'elle a aujourd'hui, une crise économique, oui, crise financière, problème de réfugiés, problème de confiance en elle, dans un monde qui lui est un peu hostile, on peut parler évidemment, il faut guiser le Brexit, Trump, Poutine, Xi Jinping, est-ce qu'on va vers l'effondrement ou est-ce qu'on va vers le sursaut?
Aujourd'hui, on va plus ou moins aveugle vers l'effondrement. Ça arrive dans la vie quelquefois, on va vers des crises majeures, et puis tout d'un coup, on arrive au bord du gouffre, on se dit, qu'est-ce que je fais? Et alors il y a le sursaut. Moi j'espère le sursaut. Mais je ne peux pas vous prédire le sursaut. J'ai beaucoup vécu dans la politique créatrice pendant presque 60 ans. J'ai constaté que lorsqu'une situation était sur le point de devenir dramatique ou suicidaire, il y avait un sursaut. L'exemple du général de Gaulle est très bon puisqu'on le cite sans arrêt. En 1940, si le général de Gaulle avait eu un sondage, il aurait eu 3%. Et le maréchal Pétain aurait eu 87%.
Le sursaut, ça passe d'abord par une prise de conscience. Qu'est-ce qui pourrait générer cette prise de conscience? Et puis ensuite par des moyens, je n'ose pas dire une méthode, mais en tout cas une urgence. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que finalement, dans un deuxième temps, après cette prise de conscience qu'on peut appeler de nos voeux, l'Europe retrouve grâce auprès des Européens?
Ça ne sera pas l'amour fou. Mais ça sera peut-être la reconnaissance que c'est une nécessité. Vous savez, si M. Trump continue à faire les déclarations qu'il a faites ces jours-ci, il y a beaucoup de gens en Europe qui vont prendre conscience de la nécessité d'une relance européenne.
Trump, c'est une chance pour l'Europe.
Vous avez raison de le dire, mais c'est un défi qui nous est lancé. M. Poutine est moins provocant de ce point de vue-là. Je ne crois pas qu'il soit plus sympathique à l'idée européenne. Mais M. Trump, c'est un de ses fonds de commerce. Il appelle un chat, et en plus, il vous le lance à la figure. Alors, avec ça, on doit se réveiller, non? Je suis persuadé que devant des défis aussi clairs, il y aura un réveil de la conscience européenne. Peut-être parmi ceux qui ont des responsabilités politiques. Mais dans le cas européen, tous ceux qui ont des responsabilités politiques sont comptables de ce qu'ils font face au peuple. Et peut-être, soit le peuple ou des parties du peuple les pousseront vers cette relance, soit ils la proposeront en des termes avec des intérêts que le peuple comprendra et entraîneront finalement le peuple à accepter plus par nécessité que par élan d'amour comme était celui qui était le nôtre au début.
À 91 ans, on vous écoute depuis une heure à peu près. Vous êtes plutôt optimiste sur la marche du monde et de l'Europe.
Oui, parce que je crois dans l'instinct profond des peuples. Vous savez, l'histoire, elle n'est pas faite par des historiens. Elle est faite par des individus, par l'histoire personnelle qu'ils ont, par les mémoires de leur famille. Je fais très attention à ça. Et j'ai constaté qu'il y a des moments, quelle que soit la structure politique, il y a des moments de prise de conscience individuelle qui se traduisent par des volontés collectives qui sont peut-être mal... Regardez la révolution culturelle en Chine. Moi, j'y suis allé pendant un mois pendant la révolution culturelle. C'est abominable. On détruisait tout. C'est au moment où Mao voulait conduire, vous savez, sur le quartier général. Bon. Eh bien, il y a eu, à l'intérieur d'une société très traditionnelle et très disciplinée, comme société, je ne parle pas, le chinois n'est pas discipliné personnellement, mais la société est très disciplinée, dans des conditions mondiales très spéciales, il y a eu petit à petit une volonté collective qui s'est développée et elle a été traduite par un homme, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping existait avant, il était dans le parti, etc., etc. Bon, il a même été victime de la révolution culturelle. Bon, et tout d'un coup, et alors c'est ça qui est formidable, il a senti qu'il était l'homme de la situation et il a dit ce qu'il fallait dire. Et ce qu'il dit à ce moment-là a eu une influence considérable.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un Deng Xiaoping européen, c'est-à-dire un homme politique d'envergure, connu par les citoyens des 28 pays, enfin des 27 maintenant, moins les Britanniques, est-ce qu'un Européen peut émerger dans 27 pays qui ne parlent pas la même langue, etc., etc. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Tous les Chinois parlent le chinois.
Oui, mais ils ne se comprennent pas entre le Nord et le Sud, comme vous le savez. D'accord. Mais je le crois parce que les moyens de communication actuels diffusent instantanément l'image et traduisent les mots de cette personne dans les langues différentes. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas une adhésion personnelle, si je cite son nom. Prenez le cas de Macron. Je répète, ce n'est pas une adhésion personnelle. Je constate que cet homme, il y a 2 ans, était inconnu
de tout le monde.
De tout le monde.
Presque.
Bon. Maintenant, il y a du monde qui va à ces réunions dans des conditions assez impressionnantes. Et maintenant, j'ai reçu ce matin un mail d'un de mes amis américains de Washington et qui me dit est-ce que tu connais Macron ? J'ai répondu avant que vous arriviez, non, je ne le connais pas. Et il m'a dit, tu devrais le connaître. Bon, et ça vient de Washington. Le nom de Macron est connu. Il ne l'était pas. Bon, je ne dis pas que c'est cet homme, etc. Je suis certain, vous aurez, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui a fait le procès contre le gouvernement pour demander au gouvernement d'avoir un vote du Parlement européen avant la décision d'utiliser le fameux article 50
britannique.
Bon, qu'est-ce que c'est une dame des Caraïbes britannique qui dirige un fonds d'investissement. C'est elle qui a fait le procès. C'est en train de faire et le gouvernement vraisemblablement va perdre en appel. Elle change la donnée politique. Elle sortait de nulle part. Elle n'a jamais fait de politique. Elle a réagi au nom de la jeune génération britannique qui est contre le Brexit, comme ça a été dit, etc. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une confiance instinctive dans la régénération spontanée de ce dont on a besoin à un moment donné. Ou c'est de l'optimisme, ou c'est de la naïveté. C'est peut-être dû à l'âge.
Alors justement, vous avez 91 ans, on a compris que vous étiez optimiste, que vous étiez confiant dans l'avenir du monde et de l'Europe. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui a 20 ans, une vingtaine d'années aujourd'hui, pour qui l'Europe c'est à la fois une évidence, mais en même temps, il ne l'a pas construit. Il n'a pas connu la guerre, il a vécu avec des moyens de communication modernes, il ne se pose pas la question de cette construction qui a été si difficile à mettre en place, et vous en êtes un témoin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune de 20 ans à propos de l'Europe aujourd'hui ?
Vous m'avez interrogé, je n'ai pas beaucoup parlé de ma vie, parce que ce n'est pas très intéressant, mais je n'étais pas destiné à jouer le rôle que j'ai joué, parce que j'ai joué un rôle à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle... Bon, c'est les circonstances. J'ai été saisi de quelque chose. Alors que je voulais faire, mon métier, c'est être écrivain et faire du théâtre. J'ai travaillé dans ce domaine. Bon, c'était ça. Et je ne regrette pas ma vie. Je dis qu'il y a un jeune aujourd'hui, quel qu'il soit, il a en main... par son métier, par les hasards de la vie, parce que les hasards de la vie, ça compte. Hein. Il a en main le destin de sa vie, de ceux qui lui sont chers, de son pays et des valeurs européennes. Parce qu'on va retrouver les valeurs européennes, on en discute partout. On les a un peu perdues, on a peut-être perdu un peu le sens de l'histoire. Tout ça, ça revient. Bon. Vous savez, j'ai une amie musulmane qui est venue me voir il y a quelques mois. Elle m'a dit... Quand ma famille est venue en France, c'était la marche à l'étoile. Ma famille est allée vers la France telle qu'on la voit encore. Et elle dit, la question que je vous pose, il paraît qu'il y a des étoiles que l'on voit mais qui n'existent plus. Et elle me dit la question, est-ce que cette étoile française que je vois et qui a guidé mes parents, elle existe ou elle n'existe plus? Et ma réponse à la jeunesse, je dis... à vous de répondre si elle existe ou n'existe plus, et à travers elle, si l'Europe brille ou ne brille pas.
Il y a les 12 étoiles du drapeau européen. remplace peut-être cette étoile de la France.
Vous remarquerez que partout, il y a ou on a eu des étoiles ou des croissants. C'est dans le ciel.
Dernière question, Georges Berthoin. Et si l'Europe n'existait plus ?
Le monde, à ce moment-là, risque des conflits très graves. Parce que l'absence... L'Europe existera toujours.
Vous avez géographiquement.
Géographiquement et même culturellement. On peut être un musée merveilleux. Bon, on va en Grèce.
Saint-Michel.
Oui,
Saint-Michel.
Oui, ou le Parthénon. Le Parthénon. Bon. Mais d'ailleurs, je fais une parenthèse. Grâce à Internet, on va découvrir que la philosophie grecque devient très importante. Parce que c'était une philosophie de voisinage. Par Internet, on est tous à égalité, en connexion avec qui on veut. Ça, c'est la place du marché, c'est l'agora, Athènes, si vous voulez. Bon, et alors là, il y a des règles du jeu, il y a des discussions. Je crois que ça se produira. Mais, attendez, pour répondre à votre question, si l'Europe n'existait plus, elle ferait un beau musée, elle est splendide, la musique, il y aura des choses remarquables, mais le monde se fera selon des données qui ne sont plus les siennes. Et je ne crois pas que le monde sera paisible si ces données disparaissent de la réflexion internationale.
Merci.
J'espère ne pas avoir été trop bêtement optimiste, mais je parle pas simplement au nom de l'idéalisme, au nom de l'expérience.
Grand merci Georges Berthoin pour ce moment d'espérance lucide. Comme d'habitude, vous pourrez réécouter cet entretien sur la page de l'émission RFI Carrefour de l'Europe et sur les applis mobiles RFI et trouver évidemment quelques informations sur notre invité. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.